VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 5 minutes l'Amérique et voix avec John Lyndon, mais tout d'abord les nouvelles. En RCA, la campagne pour les présidentielles et les législatives de mercredi est pratiquement terminée. Le moment de faire le point sur le processus électoral supervisé par l'ANE, l'Autorité nationale des élections. Le scrutin avait été reporté jeudi dernier du 27 au 30 décembre en raison des difficultés techniques et logistiques relevées après le scrutin test du référendum du 13 décembre. À Bangui, les explications de notre envoyé spécial Tatiana Mosso.
La pression monte au sein de l'ANE, l'Autorité nationale des élections. L'instance chargée d'organiser techniquement les scrutins présidentiels et législatifs semble aller au vote à marche forcée, tant les difficultés techniques et logistiques qu'il reste encore à résoudre semblent nécessiter plus de temps. Bien que plusieurs candidats soient sceptiques sur un scrutin crédible et transparent, du fait de délais très courts, le porte-parole de l'ANE s'est voulu rassurant ce matin. Selon Julius Rufin Gwabe Baba, 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées, dont au moins 70% à Bangui. Du côté de la formation des agents et membres des bureaux de vote, ils auraient bénéficié d'une formation en accéléré pour éviter les erreurs commises lors du référendum. À ce jour, et selon l'ANE, même dans la précipitation, il y aura bel et bien un vote le 30 décembre. Pendant ce temps, dans le ciel de la capitale, un hélicoptère militaire survole la ville. La campagne entre dans ses dernières 24 heures et les candidats se rassemblent dans les rues de Bangui pour tenter de convaincre les indécis ou de remotiver leurs troupes avant le jour J. Tatiana Mosso pour VOA Afrique à Bangui.
Crise au Burundi, début ce lundi à Entebbe en Ouganda, des pourparlers entre le gouvernement burundais, les groupes de l'opposition et la société civile. Le point avec Eddie Sango.
La rencontre d'Entebbe avait failli mal débuter. Un responsable de la délégation gouvernementale ayant menacé de se retirer s'il voyait autour de la table les instigateurs du coup d'État de mai contre le président Pierre Nkurunziza. Lors de la cérémonie d'ouverture présidée par les chefs de l'État ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la crise burundaise, chacune des parties a pu s'exprimer brièvement. La réunion d'Entebbe n'est que l'étape initiale d'un processus devant aboutir à la reprise formelle du dialogue. Celui-ci avait été interrompu en juillet à la suite du retrait de la partie gouvernementale peu avant la réélection du président Nkurunziza. Selon le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, les discussions reprendront le 6 janvier à Arusha, en Tanzanie. Mais Bujumbura a immédiatement affirmé qu'il n'y avait pas eu de consensus sur cette date. Le Burundi est plongé dans une crise depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Sa réélection en juillet n'a fait qu'amplifier la crise qui a fait de nombreux morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, réaction d'horreur après l'enlèvement et la décapitation d'un fils de chef de village par des hommes armés ce week-end. Un acte de violence dans le cercle de Douenza, région de Mopti, qui vise à décourager la collaboration entre les autorités maliennes et les chefs de village dans la lutte contre les groupes armés. Selon Moulay Ongoyba, le représentant des jeunes patriotes de Douenza, contacté par Kadiatou Traoré.
Ce sont des bandits armés non identifiés qui sont venus dans les 10 villages du nord de Issé, dans la commune de Mondoro, du côté est de Douanza, en passant vers Gao, à 75 km de la route RN16. Ce sont des bandits armés qui sont venus enlever. S'ils étaient en train de collaborer avec les forces armées, ils venaient souvent faire la patrouille et ça. Ils sont venus l'enlever, ils sont partis avec lui. Après deux jours, la troisième nuit, ils l'ont ramené et les tiré à 100 ou 200 mètres du village. Et enlever sa tête. C'est ma première fois quand même de voir vis-à-vis. On a enlevé la tête de quelqu'un, si ce n'est pas par le film. Donc ils ont enlevé la tête, sa tête, se mettre dans un sachet et venir accrocher la tête à son hangar, là où il l'avait enlevé. Depuis les événements, quand même, il y a eu des attaques, il y a eu des tueries, mais tuer la personne et enlever la tête de la personne, ça en réalité, c'est ma première fois d'entendre.
Moulay Ongoyba, représentant des jeunes patriotes de Douenza au Mali. Et pour terminer en Irak, le drapeau national irakien flotte de nouveau sur le principal complexe gouvernemental de Ramadi, 7 mois après la prise du chef-lieu de la province d'Anbar par les djihadistes du groupe État islamique. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation John Linden. Michel Joseph assure la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve tout juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. À la suite des attaques djihadistes, les États-Unis ont annoncé le 30 novembre dernier un durcissement de leur programme d'exemption des visas dont bénéficient les ressortissants de 38 pays, dont 23 pays de l'Union européenne. Selon le département de la sécurité intérieure, environ 20 millions de voyageurs sont entrés aux États-Unis sans visa en 2013. Ce nombre représente un peu plus du tiers des visiteurs temporaires durant cette période. Et même s'il n'existe pas de pays en Afrique bénéficiant d'exemption de visa d'entrée aux États-Unis, ce durcissement risque de compliquer les choses pour les Africains. Alors, question, que pensez-vous du durcissement de l'octroi des visas aux États-Unis face à la montée du terrorisme? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 34. Pour cette édition, nous avons deux invités, Maître Joseph Fa. Bonsoir. Voilà. Merci de votre disponibilité. Je vous pose la question. Les États-Unis envisagent donc de durcir l'octroi des visas d'entrée sur leur territoire pour faire face à la menace terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je pense que le durcissement des visas, des conditions d'obtention des visas, c'est certainement pour prévenir les menaces, la poussée de l'extrémisme. Comme vous-même vous le voyez dans le monde de l'islam, ça concerne plus les pays avec qui les États-Unis ont le libre octroi des visas.
Alors, est-ce que ces mesures ne vont pas plus sévèrement affecter les ressortissants africains?
Ben, je pense que les mesures, je compte très peu de pays qui ont la libre circulation des visas avec l'Amérique. Il y a les processus d'échange où vous, si vous êtes par exemple ressortissant français, vous avez la possibilité de venir aux États-Unis sur un, ils appellent ça exchange visa, pour une période limitée de 90 jours. Mm-hmm. Et quoi, vous devez renouveler votre séjour. Je ne pense pas que l'Amérique a ce genre de partenariat avec plusieurs pays en Afrique.
Il n'y en a pas en Afrique, de
voilà.
Toute façon.
Donc, certainement, le durcissement des conditions de visa, c'est certainement, si vous étiez au niveau des États-Unis, on va parler de background check. Mmh. Et je ne pense pas que ça va cibler uniquement les musulmans. C'est simplement au cas par cas, sur voir, est-ce que vous avez des contacts avec le Middle East, le Moyen-Orient? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous êtes djihad? Est-ce que vous avez la tendance vers l'extrémisme? Moi, je pense que c'est dans ce sens que la nouvelle réglementation va se diriger. Je ne pense pas que ce serait tout le monde n'a pas de visa, point blank. Je ne pense pas que ce serait le cas.
En tout cas, on va en discuter aujourd'hui avec nos auditeurs. On a quelques réactions sur Facebook. Celle-ci est de Benjamin Goué. Il dit « Moi, je pense que le grand problème ne vient pas de là parce que plus vous durcissez l'octroi des visas, plus les terroristes développent les mécanismes d'entrée qui ne nécessitent pas forcément des demandes de visa. J'aurais souhaité que les États-Unis trouvent le temps de revoir leur politique extérieure et qu'ils coopèrent avec les groupes terroristes pour pouvoir connaître ce qui les pousse à commettre ce genre de crime. » Vous pensez, Maître Joseph Fa, qu'il faut parler avec les terroristes?
Non, moi, je ne pense pas qu'on peut parler avec les terroristes. Ça, c'est... Je ne pense pas qu'il faut parler avec les terroristes. Moi, je pense qu'il suffit simplement de faire ce que le FBI est en train de faire ce que les organismes d'information...